Gloire à Dieu, ce soir, je vais vous continuer un peu ce que j'ai parlé les deux derniers dimanches. De quoi j'ai parlé dans les deux derniers dimanches? Du jeûne. Pourquoi vous pensez qu'on devrait insister sur ce sujet-là? Hein? Oui. Oui. Il faut réaliser que c'est là, puis utiliser ce moyen-là que Dieu nous a donné pour pouvoir avoir des victoires. C'est là. On en a parlé un peu. Ceux qui ont manqué des études, bien là, la première est déjà sur Internet. L'autre va l'être demain ou après-demain. Puis celle-là va l'être après. C'est toutes des choses qu'on peut aller écouter régulièrement. Puis si Dieu le veut, je vais en parler plus souvent. Même si je répéterai les mêmes affaires, c'est pas grave. Il faut s'en rappeler pour qu'on rentre dedans. On se fait comme qu'on s'est fait un objectif de 3 jours la dernière fois. Puis c'était bénissant. Puis on va le refaire pour qu'on puisse s'encourager à répéter. C'est de même qu'on va grandir. Ce soir, on va voir quelques éléments que je n'ai pas parlé ou que j'ai peut-être frôlé pour nous faire comprendre comment c'est important pour grandir dans le Seigneur. On va voir comment est-ce que le jeûne accompagne le ministère. Ceux qui pensent qu'ils aimeraient rentrer dans le ministère, servir le Seigneur, puis avoir des postes comme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, ou même diacre, ou même n'importe quel ministère, là, aller dans l'évangélisation, peu importe ce qu'on fait, aller dans l'école du dimanche, peu importe, dans être sur le ménage, tu peux être une personne qui jeûne puis fait du ménage, tu sais, pose l'aspirateur puis jeûner. Tout est possible parce que on combat spirituellement. Mais on va voir des passages ce soir qui nous parlent du jeûne, puis comment est-ce que le jeûne est utilisé, surtout au niveau des ministères. Le jeûne est important dans le ministère et aussi lors de notre croissance et aussi pour obtenir des victoires dans le Seigneur. C'est utile partout, le jeûne. Parce qu'on le sait, quand on jeûne, on met de la ferveur dans nos prières. C'est comme si on appuie notre prière. Autant que Jésus dit, quand deux s'accordent pour demander une chose, un appuie l'autre dans la prière. Bon, tantôt, on a prié ensemble, puis on s'appuie les uns les autres ensemble, on s'unit pour demander la chose. Mais quand tu jeûnes, c'est comme si tu étais en train de t'appuyer. Tu demandes à Dieu des choses, puis en ajoutant du jeûne, c'est comme si tu n'étais pas tout seul à prier, même ton corps prie avec toi. Tu appuies ta prière, tu mets de la privation de quelque chose. Puis Dieu voit cela, puis Dieu a établi ces choses-là que c'était biblique de le faire, c'était dans sa volonté. Jésus, on va regarder le premier exemple de Jésus quand il a commencé son ministère. Vous savez que Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Puis on voit dans Luc au chapitre 4, le verset 1. Regardez bien ce qu'il est dit dans ce passage-là. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, parce que là, il venait de se faire baptiser, puis l'Esprit est descendu comme une colombe. C'est pas que Jésus avait pas le Saint-Esprit. Jésus a toujours eu le Saint-Esprit. Mais il y a eu une onction spéciale qui était déposée quand le Saint-Esprit est descendu sur lui. Jésus était rempli du Saint-Esprit suite à son baptême. Il revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il a commencé son ministère dans les tentations. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il eut fut écoulé, il eut faim. On voit que la première chose que Jésus a faite pour bien démarrer son ministère, là, c'est parce que là, je veux parler de cela, le jeûne puis le ministère. Jésus, pour commencer son ministère, il a commencé avec un jeûne. Il était dans le combat, il a eu des tentations, puis ça, c'est des épreuves fortes. C'est le diable lui-même, en personne, qui est venu pour le tenter. Nous autres, c'est pas toujours le diable qui vient, c'est des démons, des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, Le diable, il n'est pas omniprésent sur la planète. Il donne ses ordres partout, mais ce n'est pas lui en personne. Pour Jésus, c'était le diable qui est venu le voir, puis il l'a tenté. Mais Jésus a commencé avec le jeûne, 40 jours. Qu'est-ce que ça a fait suite à cela? Au verset Luc 4, 14, puis je veux juste qu'on regarde ce que ça a fait. N'oubliez pas quand j'ai dit Jésus rempli du Saint-Esprit, il est venu du Jourdain, puis il était dans le désert. Après ça, ça dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, il retourna en Galilée, puis sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il est rentré là dans le désert, rempli, il jeûne pendant 40 jours, il combat spirituellement contre le diable, puis il sort de là revêtu de la puissance. Il s'est passé quelque chose quand il a jeûné. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il n'a pas juste été rempli, il était revêtu de la puissance de Dieu. Ce qu'on appelle, nous, dans d'autres mots, dans d'autres passages, d'être baptisé du Saint-Esprit. Quand on parle du baptême du Saint-Esprit, c'est le revêtement. Parce que être baptisé, c'est comme si tu te rentres dans l'eau. J'ai déjà expliqué là, l'idée que tu prends une bouteille, tu as rempli d'eau, elle est remplie d'eau. Mais si tu prends la bouteille qui est remplie d'eau puis tu la mets dans une chaudière d'eau, elle va être revêtue d'eau. Il n'y aura pas juste de l'eau dedans, il va être revêtu de l'eau à l'extérieur. Mais c'est ça, être baptisé du Saint-Esprit. Puis Jésus, quand il est rentré, il était rempli du Saint-Esprit, il était allé dans le désert, il a jeûné, il a combattu, puis il est sorti de là revêtu de la puissance d'en haut. Baptisé du Saint-Esprit, de la puissance, l'onction de Dieu était sur sa vie. Puis juste quelques versets, deux, trois versets plus loin, au verset 18. Jésus témoignait que l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est ce que ça dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, m'envoyer pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, puis pour envoyer libres les opprimés. Voyez-vous, à quoi sert la puissance de Dieu quand t'en es équipé? À toutes sortes de miracles. Puis Jésus avait l'onction pour tout. L'onction pour guérir le corps, l'onction pour guérir l'âme, l'onction pour chasser les démons, l'onction pour bénir les gens et les rendre libres. Jésus avait toutes les onctions. Où est-ce qu'il a été chercher ça? Ça vient du Saint-Esprit. Quand il a été équipé de cela? En commençant son ministère. Qu'est-ce que Jésus a fait pour recevoir ce revêtement de puissance-là? Il a jeûné. Voyez-vous qu'il y a quelque chose là? Il y a quelque chose là. Quand tu jeûnes, t'es comme si tu fais mourir ton corps, puis là, tu cries à Dieu, tu parles à Dieu, tu pries Dieu, puis si t'es tenté, tu combats contre le diable, t'as des victoires, le Saint-Esprit est avec toi, puis il se passe des belles affaires. Ça nous donne-tu le goût de l'avoir? Puis ça, là, hein, si c'est écrit, c'est pour nous donner le goût. Parce que Jésus, quand il est dans Acte 1-8, il dit à ses disciples, « Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous. Puis vous allez être mes témoins. » Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples, quand ils ont entendu ça? Ils se sont mis à prier. Là, ça le dit pas dans le texte, c'est ceux qui ont jeûné. Mais l'idée, c'est aspirons à voir la puissance de Dieu dans nos vies. Je vais prendre un autre exemple de personne qui était remplie du Saint-Esprit. Dans Luc, chapitre 2, le verset 36, une prophétesse, c'est une femme qui est prophète. Parce que même s'il y en a qu'on le sait que les femmes ne peuvent pas être pasteurs, c'est écrit dans la parole de Dieu, mais les femmes peuvent être prophètes. Les femmes peuvent être évangélistes, ils peuvent, diacres, ils peuvent être plein d'affaires, ils ne peuvent pas être pasteurs dans une église. Ça, c'est, mais ils peuvent être prophètes. Dans Luc 2, 36, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était avancée en âge, elle était vieille. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Après ça, son mari est mort. Elle est restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quitta pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne puis dans la prière. 84 ans. N'as-tu qu'on proche de 84, ça? Il y en a qui ont proche de 84, mais ça, c'est, t'es pas obligé d'attendre d'avoir 84 ans pour prier et jeûner. Hein? On n'est pas obligé d'avoir 84 pour prier et jeûner. Mais elle était mariée 7 ans de temps, puis le reste du temps, elle restait veuve, puis là, elle était rendue à 84, qu'elle quittait pas le temple, puis elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne, puis dans la prière. Elle n'a pas jeûné jusqu'à temps qu'elle ait 84, mais ça le dit pas dans le texte. Le texte dit seulement qu'elle a vécu 7 ans avec son mari, puis il est décédé probablement, ça le dit pas, mais elle est restée veuve par la suite, parce que son mari était décédé, puis elle était rendue à 84 quand elle était dans le temple, puis qu'elle servait Dieu dans le jeûne, puis dans la prière. On voit là-dedans comment est-ce que les prophètes, puis ils disent, c'est une prophétesse, cette femme-là. Quand elle a vu Jésus, elle a reconnu l'enfant, puis elle a béni l'enfant, puis, tu sais, prophétiquement, elle était avertie que Jésus, c'était le Messie. Puis elle a pu intervenir auprès de Marie, puis de Joseph. Ce que je veux en venir, c'est que les prophètes, mais là, on a vu Jésus, c'est un gars qui jeûnait, puis on voit que les prophètes aussi jeûnent et prient. Ça fait partie de leur ministère. Ça fait partie de la force que Dieu communique pour qu'on puisse combattre dans la prière. Un autre exemple que je veux vous donner, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lors de sa conversion, dans Actes 9, le verset 8 à 10. Si j'en parle assez régulièrement, c'est ainsi, c'est pour qu'on réalise comment est-ce que le jeûne fait partie du Nouveau Testament. Le jeûne fait partie de la vie des disciples. Le jeûne, ça sera une bonne affaire qu'on s'habitue à jeûner, puis à combattre dans nos prières avec du jeûne, puis de le faire sur une base régulière, pour qu'on puisse intégrer ça, puis qu'on puisse le faire pour faire avancer les choses. Dans Actes 9, le 8 à 10, ça nous dit, là, ça nous parle de la conversion de l'apôtre Paul, quand il a vu le Seigneur, il y a une lumière qui est apparue, il a entendu la voix du Seigneur qui a dit en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Là, lui, il a dit, « Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Là, il était tombé aveugle. Puis là, il est emmené par la main, là, il est emmené jusqu'à Damas, puis là, il attendait là. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'il faisait? Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangeait ni ne but. Il jeûnait. Pourquoi vous pensez qu'il jeûnait? Il venait d'avoir une révélation. Sa vie était toute bouleversée. C'était un gars qui était... sa vie, c'était défendre le judaïsme, puis d'abolir, de détruire toute religion qui s'élève, puis il combattait contre Jésus, puis il assassinait des disciples de Jésus. Sa vie a été changée, il a vu Jésus, là il était à l'envers, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 3 jours de retrait, il était rendu aveugle, il s'est mis à prier Dieu, puis à jeûner. Pourquoi? Ben là, pour que Dieu il se révèle, pour qu'il comprenne qu'est-ce qui se passe, puis de pouvoir partir sur le bon pied. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias », puis il répondit, « Me voici, Seigneur ». Là, Ananias a été envoyé par Jésus pour aller voir Paul, pour prier pour lui, puis pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit, puis qu'il se fasse baptiser, puis qu'il commence sa nouvelle vie avec le Seigneur. Voyez-vous comment est-ce que c'est important? Hein? Il guérit aussi, là, il a, ben, en priant pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit, les écailles ont tombé des yeux. Mais ils n'ont pas prié pour la guérison, mais ils ont prié pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Mais pour tout ça pour dire, première chose qu'il faisait, pourquoi vous pensez qu'il a fait ça, qu'il a jeûné? Parce que les Juifs étaient habitués de jeûner. Ça faisait partie de leur vie dans la loi de Moïse, ils en parlent du jeûne. Puis c'était déjà des gens... qui jeûnait. Quand il est arrivé à ce moment-là, puis que sa vie était bouleversée, puis il venait de voir Jésus, il a jeûné lui-ci. Après ça, on peut encore continuer avec l'histoire de Paul. Un peu plus loin, dans ça, on parle d'une couple d'années plus tard, l'apôtre Paul il était dans une église à Antioche. Puis Antioche, il y avait une grosse église à Jérusalem, puis il y avait une grosse église à Antioche. Puis, dans Actes 13, les versets 1 à 3. Puis, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes puis des docteurs. Dans cette église-là, il était équipé de gens qui étaient dans le ministère, qui étaient déjà en train de servir le Seigneur dans la prédication de la parole puis dans les prophéties. Il y avait des prophètes. Là, on voit dans ce passage-là, tout de suite après, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétraque, et Saul, l'apôtre Paul. Il n'était pas encore l'apôtre Paul, il s'appelait Saul. Il était là, dans cette église-là, Antioche, entouré de docteurs et de prophètes. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-là? Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'il jeûnait. Oh! Là, on voit que les prophètes, puis les docteurs, puis l'apôtre Paul, qui n'était pas encore dans le ministère, mais qui était avec eux dans le ministère, mais sans être lui-même dans un ministère, il dit, servait le Seigneur dans leur ministère, et il jeûnait. Ça faisait partie de la vie des prophètes, des docteurs, et tous ceux qui étaient anciens dans cette église-là, de jeûner, puis de servir dans le ministère. Tout ça encore pour dire comment le jeûne accompagne le ministère, les ministères. Puis là, ils ont jeûné, ça dit, le Saint-Esprit dit, là, il y a eu une parole par un prophète, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Puis là, au verset 3, ça dit, « Alors, après avoir jeûné et prié, ils imposèrent les mains à Paul puis Barnabas, puis les laissèrent partir. » Voyez-vous qu'est-ce qui s'est produit? Pendant qu'ils étaient en train de servir le Seigneur, ils priaient puis ils jeûnaient. Pendant qu'ils priaient qu'ils jeûnaient, il y a eu une parole prophétique que Dieu a dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Paul, je les veux pour dans la mission. » Ils ont fini le temps de jeûne puis de prière. Puis après ça, ils ont imposé les mains à Barnabas, puis à Paul, à Saul, puis ils ont laissé partir pour le ministère. Voyez-vous qu'est-ce qui se passe quand les gens prient et jeûnent? Il y a des paroles de Dieu qui sont données comme révélation pour dire des missions, donner des missions à des gens, des appels dans le ministère. Si on en veut plus, d'appel dans le ministère. S'il y a des gens qui se disent, « Moi, j'aimerais ça que Dieu m'appelle, qu'il me montre ce que je dois faire, où ce que je dois servir. » Parce que ces gens-là étaient déjà en train de servir, mais Dieu leur a donné une autre direction, c'est de s'en aller faire de l'évangélisation puis ouvrir des églises un peu partout. S'il y en a qui sentent qu'ils aimeraient ça, que ça débloque dans leur vie, puis ben, le secret, prier et jeûner. Puis le Saint-Esprit va vous conduire dans ce qu'il va vous appeler. Un autre dernier passage que je veux vous lire, dans Acte 14, le verset 21 à 23. On va voir encore comment est-ce que le jeûne est encore là dans ce qui s'est produit à ce moment-là. Là, il est en train de faire de l'évangélisation. Paul et Barnabas, il est en train d'évangéliser. Puis quand ils eurent évangélisé cette ville, puis fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône, puis à Antioche. Fait que, il est en train d'évangéliser, il y a des gens qui ont accepté le Seigneur, puis après ça, ils ont retourné, puis là, ils parlent de trois noms de villes dans lesquelles ils ont passé en s'en retournant. Lystre, Icône, puis Antioche. Fortifiant l'esprit des disciples qu'il y avait dans chacune de ces villes-là, les exhortant à persévérer dans la foi, puis en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans leur royaume. Puis, ils ont fait quelque chose d'autre. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Ils ont passé dans les trois églises. Ils ont encouragé les disciples. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Voyez-vous encore, pour établir les anciens dans chacune de ces villes-là, ils se sont mis encore à prier et à jeûner, puis après ça, ils les ont remis dans les mains du Seigneur pour leur ministère. Tout ça pour dire comment c'est important de prier et jeûner, pas juste prier. Jésus l'a fait, on voit les prophètes le faisaient, on voit même lors de conversion et des gens qui le faisaient, on voit que lors d'appels pour avoir des visions ou des révélations du Seigneur, tu veux servir le Seigneur, tu pries puis tu jeûnes, puis là il y a des paroles qui sont données prophétiquement pour te diriger dans le ministère. Puis on voit aussi même quand c'est le temps de nommer des anciens dans chaque église, mais ils ont prié puis jeûné pour que le ministère de ces gens-là soit guidé par le Seigneur. Tout ça pour dire, c'est important le jeûne. Puis il faut commencer à apprendre à jeûner. Si on veut grandir dans le Seigneur, au début du j'ai dit, le jeûne est important dans le ministère et aussi lors de notre croissance et pour obtenir des victoires dans le Seigneur. C'est une arme, le jeûne. C'était utilisé par Jésus, par les apôtres, puis par les frères et sœurs, par les prophètes, par des gens même dans l'Ancien Testament. Apprenons à rentrer, pas un mode de vie, là, mais à rentrer cette pratique dans nos vies afin de voir des choses changer. Amen.
Amen.
Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour les choses que tu t'as mis là, Seigneur, par écrit, pour qu'on puisse les connaître, qu'on puisse comprendre comment certaines choses sont importantes dans la vie chrétienne. Seigneur, on a parlé pendant trois réunions sur le jeûne, puis on ne veut pas oublier ce que tu nous as appris. Donne-nous d'intégrer ces choses, de mettre ça en pratique régulièrement, qu'on puisse apprendre à combattre dans la prière, puis dans le jeûne, pour voir les choses changer. Je sais qu'il y a de grandes choses qui s'en viennent. Merci, Seigneur, de nous révéler ces choses, et merci pour tout ce que tu vas faire dans la suite. On remet nos ventres à tes mains, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.